Tu penses à faire un échange avec le Québec?
Ou peut-être tu as déjà postulé?
Tu es dans le bon coin.
Nous avons plein d'expériences avec les échanges scolaires et surtout avec le Québec.
Bienvenue au podcast Québécois Bavarois.
Bonjour, nous sommes Elena et Elena, et nous sommes ici avec nos partenaires d'échange Andrea et Luan.
Oui,
salut!
Et ça, c'est le deuxième épisode de notre podcast sur l'échange scolaire avec le Québec.
Le sujet du jour est probablement le plus intéressant pour la plupart d'entre vous. C'est le séjour à l'étranger.
Passer du temps dans un pays méconnu, pratiquement tout seul, ce n'est pas toujours facile. Il faut avoir du courage pour le faire à un si jeune âge.
Mais c'est tout à fait faisable et agréable. Il faut commencer au début. Comment est passée ton arrivée, Elena?
Le jour que nous sommes partis, il y avait beaucoup de larmes à l'aéroport de Munich. Mais ils ont été remplacés par nos grands sourires après 10 minutes. On était en train de commencer un des plus grands aventures de nos vies.
Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. On était dans l'avion pendant plus de 9 heures et la bouffe était dégueulasse.
Ouais, à l'instant où l'avion atterrit à Montréal, tout s'est passé très vite. Ma famille d'accueil m'attendait et j'ai pu finalement revoir ma jumelle canadienne. C'était un soir merveilleux et pour la toute première fois de ma vie. J'ai vu des tas de neige de plus d'un mètre de haut.
Ouais, ouais, c'est normal ici. Puis, je sais pas si on avait fait cette blague-là quand t'étais là, Elena, mais on fait cette blague-là depuis des années. Il y a particulièrement beaucoup de neige dans ma rue spécifiquement. Donc, les tas de neige, 2 mètres de haut, let's go.
Je ne pouvais pas voir votre maison.
Non.
Parce qu'il y avait, je pense, 3 mètres de neige devant la maison.
Oui. C'est quelque chose. Ouais. Mais ce n'est pas parce qu'il neige 3 mètres. C'est parce que quand il passe pour déneiger la rue, il jette toute la neige devant notre maison.
Oui, ouais. C'est ça. Donc. Moi, j'ai dû prendre un autre avion pour me rendre à Québec. Et on était aussi fatigués car en Allemagne, il était déjà 3 heures du matin. Et la première chose que je fais, c'était quoi alors, j'ai mangé tellement des crêpes que je me suis sentie malade. Et après, je suis allée me coucher. Et je pense, Andrea, ta mère m'a fait quoi 10 crêpes?
Elle fait beaucoup de crêpes.
Ouais.
Puis on les mange presque toutes.
Ouais, c'est ça. Et toi, Andrea, est-ce que tu te souviens de quelque chose d'autre?
Quand toi, t'es arrivé?
Oui. Ouais.
Je sais pas, on dirait que ça s'est effacé, mais je me souviens les journées avant, parce que ça faisait déjà un petit bout qu'on se connaissait, et que j'avais préparé une petite pancarte en forme de tes super shorts blancs avec des cœurs.
Oh, ouais.
Je sais pas si tu l'as encore.
Oui, oui.
Oui, wow.
Ça semble pas un talent favori, ok? Mais c'était pour jouer théâtre.
Ok, ok. Ouais,
donc.
Ok, pour revenir au sujet du podcast, c'était quoi le moment quand tu as compris que tu n'es plus en Europe? Pour moi, c'était le matin quand je me suis réveillée, plutôt que tous les autres, à cause du décalage horaire.
Ouais, cela te frappe vraiment en ces moments-là que tu viens de quitter ta maison pendant 3 mois. La maison était tellement calme, je ne savais pas quoi faire. Alors je défais ma valise et je trouvais des photos que ma copine avait cachées dans ma valise en Allemagne. Et ça, c'était trop cute.
Pour moi, c'était un petit problème parce que c'était vraiment bizarre. Moi, je me souviens parce que vous m'avez acheté du thé. Et j'étais tellement contente. Mais c'est une histoire drôle. Dans l'avion, j'ai pas mangé. Et quand ils m'ont demandé...
T'as rien mangé?
Non, parce que la bouffe dans l'avion, c'était dégueulasse. Et puis quand je suis arrivée, ils m'ont demandé si j'ai faim. Et j'étais... Non, parce que j'étais mide, j'étais gênée là.
Oh.
Je suis réveillée 5 heures du matin parce que j'ai... bon, avec, parce que la différence du temps.
Et j'avais faim.
J'avais faim. Et je ne savais pas quoi faire parce qu'ils ont dormi. Et c'était dimanche, je pense. Alors, ils ont dormi longtemps, jusqu'à 10 heures. Et moi, je ne savais pas quoi faire parce qu'il était tard quand on est arrivé. Et j'avais tellement faim.
T'es trop gentille.
Oui, je sais. Mais toi, tu m'avais donné du pop-corn avec le goût des sirops d'érable.
Ouais.
Oui, parce que je ne voulais pas aller dans la cuisine mon premier jour, tout seul. Et je ne pouvais pas l'ouvrir, alors j'avais tellement des problèmes à ouvrir ces pop-corn.
Wow. Donc, conseil pour les familles d'accueil, toujours avoir de la nourriture prête.
Ouais. Oui,
même si on dit non.
Voilà. C'est normal, je pense que moi j'étais aussi vraiment gênée le premier jour et la première semaine.
Quand tu es dans une nouvelle famille, on ne veut pas causer des problèmes, alors on veut être non, il ne faut rien faire pour moi, je suis contente. Et à ce point, c'est quelque chose que l'élève d'échange doit faire. Parce que la famille ne peut pas savoir qu'est-ce que tu penses.
Ouais.
Alors, il faut dire la vérité, et sinon, c'est ton problème. Mais je dois dire, j'ai une belle histoire à raconter maintenant. J'ai mangé ces pop-corn 6 heures du matin.
Quel contraste avec l'autre Elena que ma mère avait préparé des crêpes, puis on t'a bourré la face de crêpes.
Ouais, pour moi, c'était vraiment le contraire, parce que moi, je n'avais pas faim du tout. Mais j'étais comme... Ah, je dois être gentille, je dois manger quelque chose. Et ta mère, elle était tellement heureuse que ça m'a goûté.
Que tu trouvais ça bon
je le trouvais bon. Et elle a dit, je sais pas qu'elle a dit, mais j'étais comme, il faut que je le mange tous. donc, je le mange tous avec toi. Et après, je me sentais vraiment mal.
Mais c'est intéressant de voir ces contrastes là.
On est vraiment timide.
C'est sûr là, surtout à disons à cet âge là, puis t'arrives quelque part de nouveau, tu connais pas la famille, c'est sûr que tu peux être plus timide.
Mais je pense que j'aimerais juste partager. Ce qui m'angoissait beaucoup, c'était de prendre ma douche. Ça a peut-être l'air niaiseux, mais on dirait que je savais pas s'il fallait vraiment que j'éteigne l'eau quand je me lavais ou pas.
Ah oui!
Puis je savais pas c'était quoi le temps d'une douche normale en Allemagne. Je savais pas si j'allais comme offusquer en prenant une douche trop longue ou... en fermant pas l'eau. Enfin, j'y pensais souvent là, à la douche.
Oui. Mais ça fait du sens parce que je pense que c'est normal dans tous les échanges, n'importe où on va. Mm-hmm. C'est justement parce qu'on est dans une nouvelle famille et on ne sait pas c'est quoi la norme, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire.
Ouais.
Bon, c'est tout à fait normal d'être un peu gêné les premiers temps dans une nouvelle famille, comme on avait déjà dit. Mais ne t'inquiète pas, parce que pour eux, c'est absolument la même chose.
Oui, et leur rythme quotidien serait probablement complètement différent de chez toi. Le but, c'est de trouver un moyen de s'arranger avec l'emploi du temps de la famille.
Oui, il ne faut pas essayer de changer le rythme quotidien de la famille. Tu seras un invité ou plutôt un nouveau membre de la famille. Et les règles de base au Canada sont les mêmes qu'en Allemagne. Donc, ce n'est pas si grave, je pense.
Oui, ce n'est pas toujours facile, mais après quelques semaines, tu te trouveras ton propre rythme.
Oui, vraiment. Ouais. Et peut-être que tu trouveras un sport que tu peux faire, peut-être ensemble avec ton partenaire de change.
Oui, et c'est aussi c'est aussi bon pour rester en bonne santé pendant ton séjour au Québec. Parce que même si la bouffe est tellement bonne, elle est très grasse et du coup pas ce qu'on a l'habitude de manger en Allemagne.
Tu penses? Pour moi, c'était différent parce que je pense qu'on a mangé beaucoup de choses que Je mangerai à la maison aussi, comme André a déjà dit,
oui.
Schnitzel, par exemple.
On a beaucoup de repas qui se ressemblent, les Roumains puis les Allemands.
Ouais. Je pense que j'ai perdu de poids en Québec parce que je fais du sport régulièrement, parce que je n'avais pas quelque chose d'autre à faire.
Ça, quand on donne ses conseils, trouver un sport,
ouais.
Et c'est quelque chose que tu peux faire avec ta famille, avec ton jumeau.
Et tu ne dois pas parler, c'est aussi bon. Oui. Parce que comme ça, on peut faire plus... on peut se connaître un peu mieux. Mais on a aussi quelque chose à faire pour soi-même. Et on ne doit pas parler toujours.
Ouais, ça donne une pause mentale là, aussi à devoir parler dans une autre langue.
En plus, même si la famille doit faire un effort à s'intégrer à la vie familiale, la moitié du travail est à toi.
Oui, j'ai trouvé que la façon la plus facile de s'intégrer vite est de demander si on pourrait aider avec les tâches ménagères. Peu importe ce que soit préparer les repas ou nettoyer à la table.
Ta mère ne voulait pas que je fasse quelque chose. Elle m'a dit non.
Oui, c'est vrai.
Ça dépend à la famille.
Ça dépend de la famille, comment ils voient les tâches ménagères. C'est sûr que ma mère, elle voulait pas que t'aies.
Faire un effort actif pour passer du temps avec la famille est aussi une bonne idée. Si ton partenaire a des sœurs ou des frères, tu peux les demander à jouer des jeux à table.
Mm-hmm.
Je pense que c'est ça qu'Andrea a fait en Allemagne.
Oui. On avait joué, je me souviens pas c'est quoi le nom en allemand, je me souviens juste le nom en roumain, mais c'était un jeu que je connaissais déjà.
Je pense que tu as joué Mensch, Ärger dich nicht avec ma grand-mère, beaucoup.
Oui.
Ouais.
Puis j'avais joué aussi avec tes petites sœurs, mais c'était drôle. Ouais, mais c'est sûr que tes petites sœurs, je me souviens, vu qu'elles étaient jeunes, étaient plus gênées quand on parlait ensemble, mais... À partir de ce moment-là, à partir du moment que j'ai commencé à jouer à des jeux de société avec elle, là, je pense que la gêne est partie un peu plus.
Ouais. Je pense que les premiers mois après que tu étais partie pour le Québec, elle était vraiment triste que tu n'étais pas là pour jouer les jeux à table. On parle déjà de la famille. Comment as-tu regardé le contact avec ta famille, Andrea?
Mais je trouve qu'est-ce qui est important, c'est avant de partir, déjà d'établir avec ta propre famille, OK, on va se parler par Skype,
mm-hmm.
par exemple, puis on peut s'appeler à telle ou telle fréquence. Comme moi, j'étais déjà habituée d'appeler mes grands-parents par Skype à chaque semaine. Avec mes parents, c'est ça qu'on avait décidé aussi. On s'appelait par Skype, puis c'est comme ça qu'on gardait le contact. Puis des fois, on s'envoyait des messages sur Facebook.
Ouais.
Il y a des gens qui préfèrent parler à leurs parents plus souvent. Il y a des gens qui préfèrent moins souvent. Ça, c'est vraiment à toi de décider. Mais maintenant, il y a plein de moyens de garder le contact à distance. Là, donc...
Oui.
C'est quand même facile de ça aide aussi à pas être trop dépaysé. T'as un contact que tu gardes avec ta famille, puis c'est ça. Ouais. Je sais pas vous comment ça fonctionnait.
Je pense que ça, comment tu as dit que ça aide avec les choses dépaysantes, ça aide aussi avec le choc culturel. Comme ça, tu peux parler de choses
que tu connais, qui sont familières.
Ouais. Et tu peux parler des différences et tu peux comparer et vider ton esprit.
Pour moi, mes parents me manquaient tellement. Quand j'ai vu quelque chose d'intéressant, et je voulais qu'ils le voient aussi. Et mes amis en Allemagne. Et c'est ça le mal du pays. J'ai pas... C'est pas trop les pays qui m'ont manqué, mais mes parents, ma famille, parce que je voulais qu'ils voient aussi ce que je vois. C'est pour ça que je les ai appelés un peu plus souvent que je voulais les faire au début. Mais appeler ta famille est quelque chose que tu peux faire quand ta famille d'accueil est occupée par leur travail ou les devoirs. Pour ces moments, il faut savoir s'occuper soi-même.
moi, je t'en prie d'essayer de ne pas les appeler chaque jour pendant plusieurs heures, parce que ça, ce n'est pas vraiment le but d'un échange. Les appeler une fois par semaine était suffisant pour moi, mais c'est à toi.
Oui, après les deux premières semaines, ils vont commencer à te manquer, mais cela va passer très vite.
Oui, c'est sûr. Comme les petits enfants, on fait des nouvelles expériences presque chaque jour et on va être trop occupé pour penser à sa famille et ses amis tout le temps.
C'est ça. Mais pour les moments que le mal du pays est un peu trop fort, que recommandez-vous?
Moi, j'ai essayé de trouver un projet sur lequel je pourrais travailler moi-même. Pour moi, c'était le sport et dessiner. Et bien sûr, des appels visio avec mes amis où on a planifié ce que nous ferions à mon retour. Cela me semble utile parce que comme ça, j'avais quelque chose de fun à espérer.
Et toi, Andrea, qu'est-ce que tu as fait contre le mal du pays?
Qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant de faire, c'est retrouver les autres étudiants québécois qui étaient dans la même région que moi. Puis on avait fait des activités ensemble une journée. Donc, on est sortis puis on a visité l'Ansuit ensemble. Puis ça aide beaucoup parce que tu es avec des gens, des Québécois comme toi. Puis tu peux parler aussi des expériences qu'eux, ils vivent. Puis vous vivez toute la même expérience d'échange. Fait que ça aide à un peu retrouver ton pays, puis aussi à discuter de choses que personne d'autre peut comprendre, parce qu'il n'y a personne d'autre qui vit la même expérience que toi là, en échange.
Ouais. Oui, mais c'est comme... Alors quand tu cherches des amis à l'école, les autres étudiants d'échange, c'est un bon point pour commencer, là.
Ouais.
Ouais. Oui, puis même les étudiants qui viennent, tiens, mettons, d'Espagne, parce que quand vous étiez au Canada, les étudiants d'Espagne, puis les étudiants du Mexique, puis du reste du Canada, ils étaient là presque en même temps. Donc ça aussi, c'est intéressant, tu peux te faire des amis de cultures complètement différentes, là, même de la culture québécoise, fait que c'est toujours un bonus.
Moi, je parle encore de temps en temps avec mes amis internationaux du Canada, par exemple Marianne, une fille mexicaine.
Pour moi, c'était aussi une fille du Mexique, elle s'appelait Jeannette.
Et bien sûr qu'il y a aussi les autres élèves québécoises.
Oui, les Québécoises sont très accueillantes, alors il va y avoir au moins un ou deux élèves dans ton école qui vont t'approcher.
Et au Canada, on n'est pas avec les mêmes élèves dans tous les cours. Alors, tu vas avoir l'opportunité de rencontrer plein d'élèves.
Oui, il faut justement trouver du courage pour les approcher toi-même, avant ou après les cours.
Puis, disons qu'au secondaire, on fait beaucoup de travaux d'équipe, là, donc c'est sûr que ces moments-là, on peut les utiliser en classe pour rencontrer des gens puis parler avec d'autres personnes.
C'est comme ça que j'ai rencontré Thomas. On est toujours en contact presque quotidiennement.
Et ça, c'est une belle transition pour notre prochain sujet, parce qu'on va parler de différences entre le système scolaire allemand et québécois.
Je pense que, t'sais, sauf pour, évidemment, la langue, le système scolaire, c'est une des choses les plus différentes qu'il y a entre l'Allemagne et le Québec, parce que c'est une organisation complètement différente. Puis, disons que même l'organisation au Québec est différente de tout le reste du Canada. Mm-hmm. On est vraiment particulier.
Non.
OK, bon, ben, je vais en parler un petit peu.
Oui, ça serait bon.
Enfin, on commence... Bon, on est à la garderie quand on est enfant. Puis, à 5 ans, on est à la maternelle. C'est comme une année de préparation entre la garderie puis l'école primaire. Puis, l'école primaire dure 6 ans. Donc, on finit quand... on commence quand on a 6 ans, puis on finit quand on a 12 ans. Et par la suite, on entre au secondaire, qui est comme une sorte de high school, mais ça va durer 5 ans. Et une fois qu'on a fini, donc l'école est obligatoire jusqu'en secondaire 4, mais la majorité des gens vont faire aussi secondaire 5. Puis par la suite, il y a différentes options. Là. On peut aller au cégep ou on peut aller faire un diplôme d'études professionnelles qui dure autour d'un an, puis pour rentrer tout de suite au travail. Puis quand on va au cégep, on a comme deux grandes options. Soit faire deux ans d'un diplôme d'études collégiales pour rentrer à l'université, ou faire un diplôme d'études collégiales qui dure souvent 3 ans, mais on va pouvoir travailler tout de suite après. Ou sinon, on peut aussi aller à l'université avec ce diplôme-là dans des programmes spécifiques. Ouais. Puis par la suite, c'est l'université, il y a le baccalauréat, la maîtrise, le doctorat. Ça, c'est pas mal commun à plein d'endroits dans le monde.
Oui, c'est comme chez nous.
Un peu, oui. Ouais. Et t'as choisi les sciences?
Oui, au cégep, il y a... Donc, au primaire et au secondaire, tout le monde fait presque la même chose. C'est plus en secondaire 4 et 5 qu'on va pouvoir choisir de faire des maths, des mathématiques fortes ou de base, ou si on va choisir aussi de faire plus de physique et de chimie, ou ouais. on peut choisir aussi faire de l'espagnol avancé, par exemple, à mon école secondaire. Puis, rendu au cégep, on a beaucoup, beaucoup de choix de programmes. Les deux programmes principaux pour rentrer à l'université, c'est les sciences de la nature puis les sciences humaines. Les sciences humaines, ça comprend les langues, l'histoire, littérature, plus de ces sujets-là. Puis les sciences de la nature, il y a vraiment beaucoup de mathématiques avancées, chimie, physique, biologie. Donc, moi, c'était ça que j'avais choisi parce que c'était quelque chose qui était requis pour... une fois rendu à l'université, là, pouvoir rentrer dans un programme en santé.
Je pense que la chose la plus intéressante pour les élèves d'échange, ça va être la secondaire.
Ouais. Oui. Oui.
Sans doute. Ouais.
C'est surtout le secondaire, mais ouais, c'est ça. Au secondaire, c'est pas mal, tout le monde fait la même chose. Les cours de base, le français, anglais, histoire, les sciences, les mathématiques, des choses comme ça.
Mais il y a certainement beaucoup de différences.
Oui, j'ai trouvé très intéressant qu'il y a des cours différents basés au niveau. Ouais. Alors, il y a les cours pour l'anglais pour les gens qui sont, oui, pour les gens qui sont supérieurs aux autres du même âge.
Mm-hmm.
Et aussi dans des maths, tu as déjà dit, alors les maths fortes.
Moi, je suis arrivée dans un cours des maths forts. Puis on faisait quelque chose que je connais déjà de l'Allemagne.
Moi aussi, parce qu'on a fait... Oui. Alors, je pense qu'on a fait le tangens.
Ah oui, les cosinus sinus tangens, oui.
On l'a fait. Et je l'ai déjà fait en 9e classe, je pense, en Allemagne. Oui. Donc, c'était bien, parce que comme ça, on n'avait pas... On avait assez de problèmes de comprendre, mais c'est un peu plus facile de le faire.
Ouais. Ouais. Les maths, c'est la langue universelle.
Oh, non. Ne le dis pas, Andrea.
Mon premier jour en école au Québec, dans les cours du maths, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris qu'ils veulent ajouter 5% à quelque chose. Puis l'intello à côté de moi a fortement dit qu'il faut multiplier avec 0,05. Mais je savais que c'est pas la bonne réponse, alors que c'était faux. Alors j'ai levé mon bras, puis le prof m'a regardé, il a dit « Oui, Germany », parce que c'était comme ça qu'il m'appelait les premières semaines. Puis toute la classe se tourne vers moi, puis me regarde. Alors j'ai dit qu'il fallait multiplier avec 1,05. Et le prof m'a demandé si je pourrais expliquer pourquoi, et j'étais comme
« Non, je ne peux pas expliquer, pas en français. » Ouais, c'est ça.
Mais pour moi, je pense que le cours de maths, c'était, ça me fait plaisir. J'étais heureuse d'être là parce que Eric, mon prof, c'est aussi une différence, hein, parce qu'on dit Eric ou...
Ouais, on appelle les professeurs par leur... ben, ça dépend toujours des professeurs. Là. Il y en a qui préfèrent qu'on dise monsieur ou madame avec leur nom de famille. Mais il y a beaucoup de professeurs qui aiment ça, qu'on les appelle par leur prénom.
Ouais.
Même à l'université, on a eu un prof qui nous a dit, premier cours, il nous a dit « Appelez-moi pas monsieur, appelez-moi pas professeur, je veux pas entendre ça, appelez-moi... Ouais. » Son nom, c'est François-Xavier, il nous a dit « Appelez-moi FX. » Ok, ok.
Wow. Mais ça, c'est tellement différent que chez nous.
Ouais, les premières deux semaines, je pensais que Eric soit quelqu'un dans notre cours.
Oui.
Donc... je ne savais pas ce qui est Eric et
ouais.
Oh God, un autre problème que j'avais, mon premier jour, quand le prof est entré, je me suis levée. Parce qu'on fait ça en Allemagne, on se lève pour dire bonjour. C'était tellement, c'était gênant là.
Ouais, il y a beaucoup moins de formalités au Québec.
Oui. Ouais,
ça c'est vrai. Pas de prière.
Je dis que ça dépend des profs, mais même avec les profs qui veulent qu'on les vouvoie, même avec eux, il n'y a pas ce niveau-là de faut qu'on se lève quand ils rentrent dans la classe, qu'on dise bonjour, tout ça. C'est pas la même chose.
Pour moi, c'était aussi surprenant que les cours sont plus longs.
Oui.
Parce qu'on a cours pendant 75 minutes, tandis qu'on a des cours de 45 minutes en Allemagne. Et j'étais vraiment crevée après mon premier cours de 75 minutes. Mais je pense qu'on s'y habitue vite, mais quand même, c'est vraiment bizarre.
Pour moi, en Allemagne, c'était déjà difficile de me concentrer pour 45 minutes. Et puis, j'étais en cours au Québec et c'est comme... Quoi? 75 minutes, je peux pas rester assis pour si longtemps.
C'est vraiment long, 75 minutes.
Mais quelque chose de différent, c'est qu'il y a seulement 4 cours pendant les jours.
Ouais.
Et quand tu reviens à la maison, il n'y a plus de temps pour faire quelque chose. Alors comme en Allemagne, je suis arrivée à 1h l'après-midi. J'ai mangé et puis j'avais tout l'après-midi pour faire ce que je veux. Et au Canada... On est rentré et puis Luan a dû faire ses devoirs. Et il n'avait pas beaucoup de temps.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Mais je pense que l'emploi du temps qu'on reçoit est vraiment bizarre parce que il est fait pour 9 jours.
Ouais, oui, c'est bizarre.
Ouais, cela signifie qu'on n'a pas le même cours tous les lundis.
Ouais.
Et on doit regarder chaque jour ce qu'on a cette journée.
Ouais.
C'est tellement différent. Là.
Ouais, c'est ça. Au secondaire, au primaire, les cycles sont faits en 10 jours, mais pour une raison quelconque. Au secondaire, c'est fait en 9 jours. Ouais, c'est vraiment. Nous, on était habitués, là, c'est sûr, mais pour vous, c'est vraiment quelque chose de différent parce qu'en Allemagne, à chaque semaine, c'est la même chose.
Ouais.
Ouais.
Et je pense, peu importe que ce soit en Bavière ou au Québec, on a une personne de contact qui t'aidera avec ton emploi du temps et aussi avec d'autres questions.
Oui. D'habitude, c'est un professeur de ton école.
Ouais. Vous pouvez trouver mon emploi du temps dans notre cloud parmi les autres documents.
Tu as peut-être déjà remarqué que Andrea et Luan parlent différent de nous. On dirait un peu bizarre.
Merci.
De rien.
Elle parle du québécois.
C'est quoi le québécois?
Le québécois est la version du français qu'on parle au Québec. Et c'est le plus grand obstacle pendant l'échange. Comme il y a encore beaucoup de personnes au Québec qui ne parlent pas l'anglais, tu dois forcément utiliser le français. Toi, tu as probablement un niveau des langues du français des B1 ou B2. On peut déjà te rassurer que c'est assez pour te débrouiller et pour suivre les cours à l'école, au moins en France.
Ouais, au moins en France. Parce que le québécois, c'est un peu plus difficile à comprendre pour les Européens. on ne voit pas beaucoup de différences à l'écrit, mais quand on entend un Québécois parler pour la première fois, on ne croyait pas que c'est du français. Pour moi, c'est ce que j'ai vécu.
Quelles sont les plus grandes différences entre les Français qu'on apprend à l'école et les Québécois?
C'est sûr que je suis pas, experte en québécois, mais qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que on écrase nos mots. Il y a beaucoup de, au lieu de dire les mots séparément, on va les dire en un mot. L'exemple le plus connu, c'est au lieu de dire je suis, on va dire je suis.
Ouais.
Ça c'est quelque chose de très très évident. Puis, au lieu de dire le mot « puis », on va souvent dire « puis ». Tout va plus vite en québécois, puis on écrase beaucoup les mots pour aller plus rapidement. Puis c'est sûr qu'on a, on a différents accents, puis dépendamment des régions du Québec, on va sonner différemment aussi.
Pour moi, mon préféré, c'est que en québécois, on dit pas « un » comme « un, deux, trois », mais c'est un son que je peux même pas faire.
Ah oui, « un ».
Oui, je peux pas faire ça.
« Un
». Je pense que je me souviens, une des grosses difficultés, c'est de prononcer le mot « matin ».
Matin.
Comme ouais. Les Québécois, avec le « un » très, très fort à la fin. Là. Ça, c'était difficile. On a quand même des différences avec le français de France.
Ouais, vraiment.
Mais on a beaucoup, vu qu'on vit dans un pays où il y a eu beaucoup de nations autochtones, mm-hmm. on utilise aussi beaucoup de vocabulaire de leur langue. Puis il y a beaucoup de choses spécifiques qui viennent de ces nations-là, comme les kayaks, les canots.
Oui, aussi le Québec, c'est algonquin.
Oui, le mot Québec. Je pense que c'est algonquin, je ne suis pas certaine, ouais. Mais oui, même le nom du Canada, Québec, c'est tous des mots qui viennent de leur langue.
En quelque sorte, les Québécois, c'est plus facile à comprendre que le français parce que
c'est l'anglais. Plus anglais. Ah.
C'est vrai, parce qu'on dit beaucoup de petits mots en anglais quand on parle.
Je pense que c'est surtout la prononciation qui nous pose des problèmes.
Ah oui.
Ouais.
Oui. Puis, ouais, c'est ça, l'accent québécois, des fois, il est un peu intense. Ouais, ça dépend vraiment des régions, parce qu'il y a des régions qui ont des mots qui disent d'une manière vraiment spécifique.
Mm-hmm.
Comme les gens du Saguenay, ils disent, au lieu de dire « carotte », comme nous, oui. Carotte, ils disent carotte.
Quoi?
Carotte. Puis au lieu de dire baleine, ils disent baleine. C'est vraiment... Ouais.
Mais ouais. Comme il n'y a pas seulement les... Il y a aussi les mots normaux comme... C'était comment? On ne dit pas t-shirt, on dit quelque chose d'autre. C'était...
Ah, un chandail!
Ouais!
Ah! Je pensais pas que c'était un mot différent, mais oui, on dit chandail. Je pense que pour le underwear, je sais pas c'est quoi le mot en français de France, mais je sais pas si en québécois on dit ça différemment parce qu'on les appelle des bobettes.
Des bobettes?
C'est oui. Pas français, je pense. Je suis pas sûre, mais je dirais non.
Je suis pas mal sûre que c'est pas français.
C'est les sous-vêtements. En français.
Oui.
Ou
ah, c'est vrai, c'est
la lingerie.
Mais oui.
Ah oui, lingerie.
Mais oui. Mais non, mais bobette, c'est vraiment spécifique à qu'est-ce qu'on porte au bas. Parce que sous-vêtement, ça peut englober toutes les sous-vêtements,
mm-hmm.
mais bobette, c'est vraiment spécifique à qu'est-ce qu'on porte dans le bas.
Mais on peut voir que ce n'est pas très facile de parler français en Québec ou d'entendre mm-hmm. et comprendre le français en Québec.
Mais il y a quand même quelques mots qui sont différents.
Ouais.
Oui. Oui, il y a quand même des mots qui sont différents. C'est sûr que quand on considère le français standard, on va quand même majoritairement le comprendre. Là. C'est pas deux langues différentes, mais vraiment du vocabulaire spécifique, ça peut être plus difficile. Mais je pense que c'est plus difficile pour vous, ayant appris seulement le français standard, de faire la transition vers le québécois versus des Québécois qui entendraient du français standard. Mais même en France, il y a bien des expressions puis plusieurs mots que on n'a jamais entendus, qu'on ne sait pas c'est quoi.
En tout cas, il ne faut pas avoir peur de parler français pendant l'échange, ou en général. Personne n'attend que ton français soit parfait à 100%.
Oui, c'est vrai. C'est normal de faire des fautes. Et je sais que nous avons déjà fait des erreurs pendant ce podcast et nous en ferons d'autres.
Ouais. Ben, c'est sûr, pour la langue, ça sera encore autant difficile pour nous, je pense. Surtout pour moi, mais je pense que... J'essaierais plus de créer des liens, là, de parler plus, même si je suis pas confortable avec la langue. Là.
Ouais.
Moi, j'ai pris ça trop à la légère, je pense. J'étais comme, oh non, ça va être correct, mais non, j'aurais dû plus pratiquer puis plus savoir l'allemand que ce que je savais. Là. J'aurais dû mettre vraiment plus d'efforts. Ça m'aurait aidé vraiment beaucoup.
Faut pas avoir peur de faire des erreurs. Là. Au pire, on va en rire, puis après, tu vas t'en souvenir. Là.
Oui, c'est ça. On peut apprendre quelque chose de ses erreurs. Et il est important de ne pas le prendre personnellement quand quelqu'un te corrige alors ta grammaire ou ta prononciation.
Ouais, c'est vrai.
Une chose qui est intéressante à faire, c'est déjà au début de l'échange, de dire à ton partenaire, « Hey, si je fais des erreurs, corrige-moi. » Comme ça, c'est sûr que tu vas apprendre plus rapidement.
Ouais. Donc, on part déjà de faire des erreurs et d'apprendre quelque chose de nos erreurs. Donc, c'est quoi qu'on a appris aujourd'hui?
Même s'il y a beaucoup de différences qui semblent énormes au début, après quelques semaines, tu te remets à ton choc culturel initial.
Oui. N'ayez pas peur de parler français.
Merci d'avoir écouté notre podcast. Dans les prochains épisodes, nous parlerons d'y revenir, d'y revoir les amis, de notre amitié après l'échange et plus. Alors, restez à l'écoute.
À plus.
Au revoir. Mais c'est cute, ça. C'est une expression différente, mais c'est mignon. Parce que mignon et cute, c'est pas la même chose pour moi.
Ouais, c'est ça, on dirait que ça a un peu le même effet. Comme ça, c'est mignon ou c'est cute.
Ouais. Et ça, je dirais que... plus jeune d'utiliser les anglicismes. Parce que même si je parle avec Pascal ou quelqu'un d'autre, il y a toujours des mots anglais, même si on parle français.